Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Image floue, difficulté à voir de loin ou de près, fatigue oculaire, irritation, rougeur, la déficience visuelle peut se manifester de plusieurs manières et être liée à différents troubles. Certaines de ces affections vont se révéler très tôt, dès l'enfance, quand d'autres vont s'installer avec les années. Comme notre vue est le sens le plus sollicité au quotidien, eh bien cette santé des yeux, elle est essentielle pour nos apprentissages, notre mobilité, même notre sécurité, notre confort tout simplement. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle donc de ces troubles de la réfraction qu'il est possible de corriger par le port de verres, de lunettes ou de lentilles de contact. Et pour certains cas, la chirurgie peut également constituer une option de traitement. Des troubles de la réfraction qu'il faut distinguer les uns des autres, la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme, savoir quand consulter, quelle prise en charge privilégier. Ce sujet de la santé oculaire pose aussi, bien sûr, une fois de plus, la question de l'accès aux soins, aux spécialistes et aux dispositifs médicaux. Ainsi, l'OMS estime que plus de 800 millions de personnes dans le monde éprouvent des difficultés dans leur vie quotidienne parce que tout simplement, elles ne possèdent pas de lunettes. Favoriser la détection précoce des déficiences visuelles, mieux sensibiliser sur la prévention de la myopie, identifier les symptômes des principaux troubles. On en parle avec nos invités, avec nous en studio, Dr Christophe Orso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologue, neuro-ophtalmologue et responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne de la Côte d'Ivoire le professeur Kassiouk Bé, qui est chef du service d'ophtalmologie au CHU de Trècheville d'Abidjan. Et puis en fin d'émission, on parlera activité physique en compagnie du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, qui a signé le livre « Le sport, je me lance » aux éditions InPress.
Priorité santé sur RFI.
Cette santé des yeux en particulier quand une partie de l'anatomie de l'œil se détériore. On va donc s'intéresser en particulier à des troubles oculaires, pas vraiment aux grandes maladies dont on parle souvent dans cette émission. Je pensais en particulier au glaucome ou à la DMLA. Là, plutôt des noms familiers. Je pense d'abord, bien sûr, à ce nom que tout le monde ou presque connaît, la myopie, docteur Christophe Orso. La myopie, quand on est myope, qu'est-ce qui marche mal dans l'organe de la vision dans l'œil ?
Alors, ce n'est pas véritablement une pathologie en soi. C'est une anomalie de la réfraction, c'est-à-dire qu'on a globalement un œil qui est un peu trop long et l'image, au lieu de focaliser sur la rétine, elle focalise en avant, donc on voit flou. Et on voit flou de loin en permanence. Par contre, le myope voit bien de près et parfois bien de près en rapprochant un peu plus ce qu'il a à lire.
Alors, s'il voit flou de loin, c'est ce qui peut expliquer qu'on voit certains myopes qui ont un peu tendance à plisser les yeux façon taupe.
Alors, effectivement, parce que pour des questions de réfraction de physique, plus on va limiter le nombre de rayons lumineux qui passent, plus on focalise sur la rétine. En fait, quand il n'y a qu'un seul rayon lumineux, il focalise toujours là où il faut. Donc, en plissant, on voit un petit peu mieux. Et les gens ont l'impression de mieux voir et ils ont pris l'habitude de plisser en permanence finalement, ils considèrent qu'ils ne sont pas gênés. En plus, on n'a pas toujours besoin de voir très loin, ce qui fait qu'on peut s'adapter à mal voir à 4, 5, 6 mètres. On s'intéresse à ce qui est autour de nous. Et dans le studio, là, si j'ai une petite myopie, je vais vous voir.
Oui, je peux retirer mes lunettes et vous voir très clairement, voilà. Parce que personnellement, je suis myope. Est-ce que c'est important de repérer très tôt, par exemple, chez un enfant, une myopie ?
Alors, il est important de repérer très tôt tout le trouble réfractif chez l'enfant, parce que l'enfant, jusqu'à 6-7 ans, développe sa vision. C'est-à-dire qu'on est avec une mauvaise vision et c'est le fait de regarder qui fait qu'on va développer, améliorer sa vision. Si on a un problème de correction optique, on va mal développer cette vision et au-delà de allez, 7-8 ans, c'est trop tard. C'est vrai pour la myopie, mais les enfants sont peu myopes. Ils sont plutôt hypermétropes, qui est l'inverse, qui est un petit œil. Et quand on a ce petit œil, eh bien, comme on est capable d'accommoder pour voir de près, les gens ne sont pas gênés ni de loin ni de près. Par contre, comme on fait un effort musculaire en permanence, puisque c'est un muscle qui contracte le cristallin, au bout d'un certain temps, on peut avoir mal à la tête, avoir une sensation de barre au-dessus des yeux, les yeux qui grattent, qui piquent. Et parfois, ce sont des enfants ou des adolescents qui, le soir, ont du mal à faire leurs devoirs parce qu'ils ont mal à la tête, ils sont fatigués. Et on a montré que l'échec scolaire pouvait en partie être lié à des troubles de la réfraction non dépistés.
Et c'est vrai, quand on porte des lunettes, en fonction du trouble de la réfraction, ben ces lunettes, ces verres, ils vont être différents. Bien sûr, si on n'a pas des verres amincis grâce à certaines technologies qui coûtent assez cher. En tout cas, on a les yeux qui ont plutôt grossi quand on est hypermétrope, les yeux qui rapetissent quand on est myope. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les verres que l'on utilise sont les mêmes que ceux que vous avez sur une loupe. Donc, quand vous prenez une loupe, vous allez grossir les objets. Et donc, si vous mettez un verre d'hypermétrope devant l'œil, vous allez grossir votre œil. Le verre de myope est l'inverse, donc il rapetisse plutôt la taille de l'œil.
Alors, quatre troubles, on a cité myopie, hypermétropie, il y a aussi astigmatisme et presbytie.
Alors, l'astigmatisme, c'est une cornée qui n'est pas totalement ronde, elle est en gros en ballon de rugby. Donc, on ne va pas focaliser de la même manière sur la rétine pour tous les axes visuels. Alors, sur un petit astigmatisme, ce n'est absolument pas gênant. Avec l'âge, ça peut commencer, là aussi, à entraîner des problèmes. Et avec l'âge, c'est assez tôt, c'est vers 30-40 ans.
Et bien sûr, on peut cumuler.
Et on peut cumuler, bien sûr.
Alors, en termes de facteurs de risque, peut-être avant de parler de la presbytie, là où c'est fortement lié à l'âge, on le sait, question Facebook d'une auditrice de RDC. Véronique demande, est-ce que la pollution de l'air, ça peut causer des problèmes de vue, docteur Christophe Orso ?
Alors, pas des problèmes de la réfraction. Ça donne des sécheresses oculaires et un œil sec. Comme le film lacrymal n'est pas bon, on voit flou. Mais ce n'est pas un problème de réfraction. C'est lié au manque de larmes.
Presbytie, est-ce qu'on est tous condamnés à être presbyte un jour ou l'autre ?
Oui.
C'est naturel. C'est naturel.
Heureusement pour les opticiens, malheureusement pour nous. Oui. Ouais. Puisque c'est un vieillissement du cristallin qui perd un peu de sa capacité à se déformer. Donc on n'arrive plus à faire la mise au point. Et vers 60 ans, il n'y a plus aucune accommodation. Et là, on est obligé de porter les verres de plus 3. Mais ça commence vers 40 ans, 45 ans. Ça dépend un peu de l'âge. Alors, un peu des gens.
Et des personnes. On va tout de suite prendre une première question en direct. On part pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Imad. Imad, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 32 ans, Imad. À quel moment votre myopie a-t-elle été diagnostiquée ?
Disons vers l'âge de 12 ans.
Vous étiez donc à l'école, parents...
Non, j'étais à la maison avec mes parents et puis on m'a demandé de lire l'heure.
Oui.
J'arrivais pas parce que j'étais assez loin, donc je plissais les yeux. Et puis ils m'ont dit approche-toi, je me suis approchée et là j'ai lu. Et là le lendemain, on m'a amené voir un ophtalmologue.
Donc ce sont vos parents qui ont été alertés sur ce problème aujourd'hui. Où en est votre niveau de vision ?
Je suis à 2,50 et 2,75 respectivement pour l'œil gauche et l'œil droit.
Et en termes de contrôle, est-ce que vous êtes suivi régulièrement ?
Oui, je vais voir l'ophtalmo tous les 2 ans. D'ailleurs, récemment, la semaine passée, je suis allée voir l'ophtalmologue. Et puis bon, il m'a dit que ça a un peu, la myopie a légèrement avancé pour l'œil droit. Donc il a dû réajuster les lunettes.
Ça veut dire que vous portez depuis tout ce temps des verres correcteurs ?
Oui, dès que je me réveille le matin, la première chose, c'est que je prends mes lunettes. Je m'en sépare jamais.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées par des problèmes de vue dans votre famille ?
Oui, ma maman, elle souffre d'une cataracte. Je suis maman de 3 enfants. Il y a ma première fille qui a un léger strabisme, on m'a dit. Moi, je porte des lunettes depuis 6 mois.
Et c'est ce strabisme, justement, qui vous a alerté.
Oui, oui. Donc, j'aimerais savoir si la myope, est-ce que ma fille peut être myope? Parce que j'ai des sœurs qui sont myopes aussi.
Quand on lui a prescrit ses lunettes pour son strabisme, j'imagine qu'on a fait un examen de sa vision. Est-ce qu'il a été vu si, oui ou non, elle présentait des caractères de la myopie?
Non, non, elle n'en présentait pas.
Docteur Christophe Orso, sur ce caractère peut-être héréditaire ou non de la myopie, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Imad?
Alors, en fait, c'est très discuté, mais globalement, il y a des familles de myopes, des familles d'hypermétropes, sans qu'il y ait un caractère franchement héréditaire. Mais si vous avez plusieurs personnes dans votre famille qui sont myopes, vous avez un risque plus important de l'être vous-même. Alors, ce sont des petites myopies, et ces petites myopies sont peu héréditaire. C'est pas vraiment un caractère aussi héréditaire que ce que l'on voit pour d'autres pathologies, mais c'est une tendance un petit peu à ce qu'il y ait plus de cas de myopie dans la famille.
Et pour une maman qui s'inquiète, si elle veut ou souhaite prévenir la myopie, est-ce qu'il y a des conseils?
Alors, ces myopies-là, globalement, non, on ne peut pas véritablement les prévenir. On ne peut rien faire de particulier. C'est un phénomène de croissance. Et l'œil va augmenter sa taille, va grandir, et puis il y a des déplacements du cristallin qui fait que on est hypermétrope à la naissance. Normalement, vers 20-22 ans, on devient hémétrope, on n'a plus besoin de lunettes, on est à zéro. Certaines personnes sont un peu moins hypermétropes au départ, donc deviennent un petit peu myopes vers 8 ans, 10 ans, 12 ans, et vont continuer à avoir une évolution de la correction jusqu'à 20-22 ans. Et là, la personne que nous avions en ligne, à 20 ans, donc elle a eu besoin d'un changement de lunettes récemment, et puis la myopie dérive toujours un petit peu.
On remercie beaucoup Imad pour son appel. Très bonne journée à Douala. Question Facebook de Mamadou de Guinée qui explique être depuis 2005. Justement, il a été diagnostiqué pour son problème de vue. Il a constaté aussi la présence de liquide de consistance assez gluante au niveau des yeux, surtout quand il y a du soleil. Également, quand il se mouche et il se demande si ça peut être un trouble de la vision. Il se demande, bref, docteur Orso, si c'est normal.
Alors, ces aspects un petit peu gluants, c'est plutôt des larmes de mauvaise qualité. C'est soit de la fatigue visuelle, soit c'est des phénomènes allergiques, mais c'est pas vraiment lié à la myopie en tant que telle, si elle est bien corrigée, s'il porte bien ses lunettes.
Ça veut dire que, par exemple, un lavage oculaire avec de l'eau bouillie, ça peut être aussi une solution.
C'est une très bonne solution.
Voilà. D'autres questions, d'autres témoignages à suivre dans Priorité Santé. On va vous retrouver, docteur Orso, juste après Hiatus Caillotte avec ce titre « Get Sun » sur RFI. Santé de l'œil dans Priorité Santé sur RFI, distinguer les différentes déficiences visuelles, toujours avec le docteur Christophe Orso, ophtalmologue, neuro-ophtalmologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Docteur, avant de retrouver d'autres questions d'auditeurs en direct, on insiste sur l'importance de la prise en charge précoce, notamment de la myopie, et on entend parler aujourd'hui assez régulièrement cette expression un petit peu bizarre, épidémie de myopie, alors que bien sûr, ce trouble oculaire n'est pas contagieux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière épidémie de myopie?
Globalement, on s'est aperçu que les myopies assez fortes étaient de plus en plus fréquentes, en particulier dans les pays du sud-ouest du sud-est asiatique, et puis avec un petit décalage maintenant chez nous dans les pays occidentaux, mais en Afrique également, on en voit beaucoup. En fait, la proportion d'enfants myopes est très importante. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait que les enfants dans certains pays passent trop de temps à l'intérieur pour travailler. Dans les pays du sud-est asiatique, c'est des fois de 7h à 23h où ils ont des cours et ils ne voient plus la lumière. Et la lumière du jour est importante, la lumière solaire est importante pour la freination de la myopie. Mais un autre gros facteur, c'est également les smartphones, tous les appareils qu'on va regarder de près. Et c'est un facteur qui aggrave la myopie. Il faut véritablement les utiliser, mais très peu de temps pour regarder quelque chose, pour prendre une information. Certainement pas, comme on le voit actuellement, pour passer ses journées sur les réseaux sociaux. Et c'est un facteur d'aggravation de la myopie. Il existe des systèmes optiques qui permettent de freiner la myopie. On a des verres freinateurs de myopie, mais ils sont encore peu diffusé, et c'est pour les myopies assez fortes, simplement des règles d'hygiène, ne pas trop utiliser Internet, l'utiliser avec à bon escient suffit à limiter cette augmentation de fréquence de la myopie chez les gens.
Alors on parle des écrans, est-ce que c'est aussi vrai pour le smartphone qu'on va se coller devant le nez que pour l'ordinateur qui va être quand même, on va dire, au moins à 40 cm de distance?
C'est plutôt le smartphone. D'accord. Parce qu'on va le regarder de très près. Et quand vous lisez un livre, quand vous tournez la page, vous regardez un petit peu au loin, vous changez le niveau où vous allez regarder.
C'est le côté scotché vraiment à l'écran.
Et là, on est scotché. En fait, on peut passer 10 minutes, un quart d'heure sans bouger les yeux. Et il y a un spasme de l'accommodation qui se fait.
Alors, message Facebook d'Obed du Ghana. Il explique que lorsqu'il travaille devant un écran pendant longtemps, ses yeux lui font mal. Double question. Est-ce qu'il faut s'inquiéter et comment l'éviter?
Alors, ce n'est absolument pas grave. Il faut vérifier deux choses. Il faut vérifier la réfraction, c'est-à-dire est-ce que vous êtes hypermétrope. C'est parfois les gens hypermétropes qui ont ce problème parce qu'ils voient bien de loin, ils accommodent, mais à force d'accommoder sur écran, ça finit par faire mal et ça entraîne en plus des insuffisances de convergence. Les gens ont du mal à porter les yeux sur l'écran et ça donne des crampes au niveau des muscles oculomoteurs.
Donc Obed se conseille tout simplement consulter un ophtalmo pour voir si éventuellement, ce qui n'est pas sûr du tout, mais en tout cas, éventuellement, vous êtes hypermétrope.
Et un orthoptiste.
Et un orthoptiste.
Pour les mouvements oculaires.
Voilà, donc double consigne. Docteur Orso, on retourne au Cameroun, cette fois c'est à Yaoundé qu'on retrouve Stéphanie. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Stéphanie, 39 ans, est-ce que vous portez des lunettes?
Je porte des lunettes.
Pour quel défaut de vision?
Il y a pour la myopie et la quoi? L'astigmatisme.
Astigmatisme. Alors, après quels symptômes, suite à quel problème, on va dire, du quotidien, est-ce que vous avez consulté un spécialiste de la vue?
Les maux de tête et puis la vision floue, de loin. De loin, je n'arrivais pas à voir.
Et vous en êtes où aujourd'hui en termes de suivi? Vous allez voir régulièrement un spécialiste?
Je vais voir un spécialiste régulièrement, mais pas de manière régulière. En fait, c'est quand j'ai mal, quand je commence à avoir mal à la tête que je vais voir le spécialiste.
Donc vous attendez d'avoir des symptômes, et précisément aujourd'hui, est-ce que vous en avez des symptômes? Est-ce que vous avez des céphalées, des maux de tête?
Là, aujourd'hui, non. Ça ne fait que 3 mois que j'étais chez l'ophtalmologue et il a changé les lunettes.
Et vous avez senti tout de suite l'amélioration?
Bien sûr, oui.
Ouais. Et vous avez des questions, justement, par rapport à ces troubles de la vision qui vous concernent?
Oui, en fait, pour la myopie, je porte les lunettes pour la myopie, ça fait 18 ans. Mais à ma dernière consultation, il y a 3 mois... qu'on a découvert la stigmatie. Et en fait, on ne m'a pas bien expliqué ce que c'était. Est-ce que c'est un mal qu'on peut corriger définitivement? Je ne sais pas. Comment est-ce que ça se manifeste réellement? Parce que j'ai eu les mêmes symptômes que ceux de la myopie. Et puis, on a découvert une astigmatie, donc je ne sais pas trop.
Oui, donc deux problèmes en même temps pour Stéphanie qui a besoin d'explications, docteur.
Alors, en fait, l'astigmatisme, c'est comme la myopie, c'est un trouble de réfraction. On a la cornée qui n'est plus régulière, qui n'est plus ronde. Ça n'arrive pas en même temps et ça peut arriver plus tard parce que le cristallin peut compenser, peut corriger une petite myopie. Et puis, avec l'âge, il n'arrive plus à le faire. Et vers 35-40 ans, on découvre cet astigmatisme qui se révèle. Il était là, mais comme on était jeune, c'était corrigé par le cristallin. Et là, on ne peut plus. Et donc, on porte des lunettes qui le corrigent et ça n'évolue pas parce que c'est une anomalie qui est là depuis très longtemps. C'est la forme de l'œil qui est comme ça.
Ça n'évolue pas dans un sens ni dans l'autre. Ça ne va pas non plus guérir.
Ça ne va pas guérir. Ça va bouger parce que la réfraction change un petit peu avec l'âge, avec le vieillissement du cristallin. On a des petites modifications, mais plutôt à la marge.
Et pour ces maux de tête de Stéphanie, comment les expliquer? C'est parce que les lunettes ne correspondaient plus finalement?
Les lunettes ne correspondaient plus, donc c'était flou. Elle faisait des efforts pour essayer de compenser. Et on fait des efforts avec le muscle qu'il y a dans l'œil, qui finit par fatiguer. Et c'est des crampes, des maux de tête, c'est comme des crampes.
Alors, merci beaucoup Stéphanie pour votre appel. Message Facebook de Alden du Congo-Brazza. Il explique qu'il a des problèmes de vue, mais souffre de photophobie, de sécheresse oculaire. Non, pas de problème de vue, mais donc un problème au soleil. Et il porte des lunettes photochromiques, ça veut dire que ça s'assombrit à la lumière. Et il se demande justement s'il risque d'avoir des troubles de la vue à cause de cette intolérance au soleil.
S'il est bien corrigé, il ne devrait pas y avoir de soucis. La lumière, les fortes lumières telles qu'il y a en Afrique, quand ce n'est pas corrigé, peuvent effectivement donner des soucis. Alors, oui et non, parce que les yeux sont ont des iris très foncés, donc laissent peu passer la lumière, mais il est quand même conseillé de plutôt porter des verres teintés au soleil pour diminuer l'éclairage de la rétine, l'éclairement de la rétine.
Donc, c'est ce que fait déjà Alden, donc c'est une très bonne solution. Bien. On va partir maintenant pour la République démocratique du Congo.
RFI à Matadi, 98 FM.
En ligne avec nous, c'est Antoine. Antoine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez 55 ans. Vos problèmes de vue, ils remontent à quand?
Mon problème de vue remonte depuis 2015.
Oui. Depuis 9 ans, avec quel signe?
J'ai commencé à avoir des difficultés à regarder la télévision et des mal de tête qui s'en suivaient après. Des vertiges lorsque j'étais engagé dans la marche.
Oui.
Et des difficultés pour réaliser une lecture de petits écrits.
Ah oui, donc ça causait quand même beaucoup de problèmes au quotidien. J'imagine qu'à ce moment-là, vous avez consulté, donc.
J'ai consulté un ophtalmologue.
Oui.
Oui.
Il vous a prescrit quoi exactement?
Il m'a prescrit de lunettes, vues de loin, qui me permet de voir au loin, et puis atténuant ainsi les rayons solaires.
Oui.
Et aussi, il m'a prescrit des lunettes qui me permettaient de lire de petits écrits.
Donc, vous retrouvez avec deux paires de lunettes, en quelque sorte, hein, Antoine?
Je me retrouve avec deux paires de lunettes, des ports permanents, avec moins 0,50 unités et pour l'œil gauche et moins 0,25 pour l'œil droit.
Et vous avez des questions pour notre spécialiste, parce que finalement, vous nous avez décrit un petit peu tous ces problèmes, mais il y a un certain nombre de questions auxquelles ce spécialiste n'a pas répondu.
Bon, la question que je voulais poser, oui, celle-ci, c'est de savoir dans quelle catégorie de cas je me retrouve, parce que vraiment, avec deux lunettes diamétralement opposées, hypermétrope ou myope. C'est en ce moment-là que je voudrais être fixé par les spécialistes.
Alors évidemment, on ne fait pas de consultation à distance, et ça, on le dit à chaque fois. Parce que sinon, on n'irait pas chez le médecin, ce serait trop simple. Mais malgré tout, docteur Christophe Orso, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur de RDC?
Alors, globalement, d'après ce qu'il dit, il a des lunettes qui sont à moins 0,25, moins 0,50. C'est une petite myopie. Probablement, il n'y avait pas de trouble. Et puis, avec l'âge, le cristallin vieillit, on devient un petit peu myope. Il y a peut-être un petit astigmatisme minime. Mais il y a en vision loin une myopie et une presbytie, puisqu'il n'arrivait plus à lire de près. Et ça, la perte de la vision de près, c'est la presbytie. À 55 ans, c'est tout à fait normal. Et il faut des lunettes, soit des doubles foyers ou des progressifs, soit deux paires de lunettes, une de loin, une de près.
Ça veut dire aujourd'hui qu'en permanence, vous vous promenez, Antoine, avec ces deux paires de lunettes avec vous?
Exactement, oui. Lorsque je dois m'engager, lorsque je sais que je dois aller faire une lecture quelque part ou un travail qui demande ce que je puisse lire ou écrire, je dois me faire accompagner d'une autre paire de lunettes pour la lecture.
Pour autant, vous n'avez plus de maux de tête, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là?
Oui, ça va bien maintenant.
Bon, en tout cas, vous avez trouvé une solution satisfaisante pour vous, c'est le principal. On vous remercie beaucoup pour votre message, Antoine. On a une question de Mahamat du chat, question Facebook. Il nous a écrit ce message. On dit que les hypermétropes sont prédisposés au glaucome à angle fermé. Est-ce que c'est vrai aussi pour le glaucome à angle ouvert? On va commencer par une petite définition. Glaucome, angle ouvert, angle fermé, c'est quoi la différence?
Alors, c'est en fait l'espace qui règne entre la cornée et l'iris. Dans le glaucome à angle fermé, cet espace entre l'iris et la cornée est très petit et c'est lié au fait que l'œil est de petite taille. Donc, l'hypermétrope a un petit œil et l'espace entre la cornée et l'iris est plus petit que la normale. Ça expose à des montées de pression quand la pupille se dilate. Le glaucome à angle ouvert, lui, c'est un glaucome qui est beaucoup plus standard, beaucoup plus classique, beaucoup plus traître aussi parce qu'il ne donne aucun signe jusqu'à ce qu'on ait des baisses de vision. Et il n'est pas rattaché à un problème de réfraction particulier. Éventuellement, plutôt la myopie forte, mais c'est très discuté. Tout le monde a le droit d'avoir un glaucome.
Donc, quand Mahamat écrit, on dit que les hypermétropes, c'est pas forcément...
Les hypermétropes ont des glaucomes à angle fermé.
À angle fermé.
Donc... Parce que l'œil est trop petit.
L'œil est trop petit. On va prendre tout de suite un autre auditeur en ligne. Pour ne rien vous cacher, on a du mal à joindre votre confrère d'Abidjan, le professeur Kassiogbé. On s'active énormément du côté de la régie. On remercie tout le monde pour les efforts. Mais heureusement, Timothée est là, en ligne du Tchad, de Sarre, avec nous. Timothée, bonjour.
Bonjour.
Alors, Timothée, jeune auditeur de 26 ans. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de problème de vue. Mais vous êtes conscient de votre santé et vous avez envie justement d'éviter d'avoir des problèmes de vue. Expliquez-nous précisément pourquoi vous avez souhaité joindre Priorité Santé.
Effectivement, au fait, j'utilise souvent les smartphones, les ordinateurs, et donc je me dis, est-ce que le fait d'être constant devant les écrans de téléphone, ordinateur, voire même des écrans télévisés, cela pourrait éventuellement me causer le problème de la myopie. Et en discutant avec des amis au quartier, ils conseillent quelquefois l'usage de certaines lunettes, mais je ne comprends pas, il serait... quelle catégorie de lunettes. Donc, c'est ainsi que j'aimerais participer à l'émission pour avoir un peu des éclaircissements à ce sujet. Mais également, je travaille aussi dans un endroit où je fréquente souvent la poussière.
Ouais.
Et donc, je me dis, est-ce que cela pourrait également avoir éventuellement des problèmes? Et pour ce sujet, on me conseille souvent également de nettoyer les yeux avec le savon de linge fabriqué localement par la société de production de savon au Tchad, appelée la Coton Tchad, pour éviter ces problèmes. Et donc, est-ce que tout cela peut être vraiment des mesures préventives ou encore le fait de travailler dans la poussière, mais rester souvent devant les écrans pourrait éventuellement me créer le problème de la myopie. Au fait, c'est ça. Mais
d'accord, je comprends bien. Donc, il y a plusieurs questions. Moi, j'ai une question, j'ai un petit peu vous embêter, gratter là où ça fait mal, Timothée. Si jamais on vous dit pendant l'émission qu'il faut laisser votre smartphone tranquille et beaucoup moins le regarder pour ne pas être myope, est-ce que vous serez prêt à le faire?
Un peu
J'en étais sûre. Je l'avais senti venir. Par contre, vous imaginez que porter des lunettes, ça peut être quelque chose de bénéfique en prévention. Ça existe, les lunettes anti-myopie, quand on n'est pas concerné, quand on est jeune et quand on utilise un smartphone?
Alors, 26 ans, on est plus jeune.
Oui.
Ah bah 26
vous,
ans, on est
là, plus... vous êtes dur.
Je suis dur, oui.
Ouais,
oui.
Dur.
26 ans, on est plus jeune, mais il va être content parce que, en fait, il y a moins de risques d'avoir de la myopie en regardant son smartphone à cet âge-là. En fait, il n'y a plus de croissance de l'œil, enfin, il y a moins de soucis. Donc, on a passé l'âge où on a des problèmes. Il y a des lunettes, effectivement, que l'on conseille pour un petit peu diminuer la lumière bleue, puisque c'est des LED au niveau des smartphones, que les LED ont beaucoup de un grand spectre en lumière bleue qui peut être toxique pour la rétine. Donc c'est pour ça qu'on conseille des verres qui filtrent le bleu. Bon, c'est très discuté, c'est pas nécessairement utile, ça change les couleurs, ça peut être un petit peu gênant. Et puis, c'est très bien de se laver les yeux matin et soir quand on est dans des environnements empoussiérés. Et tout le monde devrait le faire régulièrement.
Y compris avec du savon?
Alors le savon, ça,
c'est un peu ma question,
terrible.
Parce que ça pique quand
j'ai,
même.
J'ai peur je pense qu'en fait, il se nettoie les paupières.
D'accord,
avec le savon. Mais on peut rincer l'œil avec de l'eau bouillie, comme vous disiez tout à l'heure. Puis comme ça, on est sûr qu'elle est stérile, il n'y a pas de problème.
Voilà pour tous ces éclaircissements, je vais y arriver. Merci beaucoup Timothée, bonne journée au Tchad. Et oui, on a réussi à l'avoir, on part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
En ligne avec nous, professeur Kassiogbé, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour.
Alors, vous êtes chef du service d'ophtalmologie au CHU de Trècheville à Abidjan. Professeur, dans votre contexte, comment la plupart des troubles de la réfraction sont-ils dépistés, diagnostiqués? Ce sont les parents qui s'inquiètent d'un problème chez l'enfant? C'est l'instituteur, l'institutrice? C'est qui en général?
En fait, les deux, la plupart du temps, les enfants scolarisés, c'est les instituteurs, les institutrices qui s'inquiètent parce que l'enfant n'arrive pas à bien voir ou bien à écrire sur les lignes à l'école. Ou bien c'est les parents qui s'inquiètent parce que l'enfant ne voit pas bien, ils nous amènent à la consultation. Donc c'est les deux qui nous permettent de dépister les malvoyants.
On parle aujourd'hui dans l'émission des troubles de la réfraction. Est-ce que les personnes concernées arrivent souvent dans votre genre de service hospitalier ou ils sont plutôt adressés vers d'autres structures de santé?
Oui, ces personnes arrivent dans notre structure de santé, plutôt au CHU ici, parce qu'on a les structures pour les prendre en charge.
Ouais.
Mais en dehors de ça aussi, ils vont aussi dans les structures privées, plutôt ceux qui ont les assurances.
Est-ce que vous avez constaté que ces affections, ces troubles de la vision, sont davantage présents chez certaines populations?
Oui, on a constaté, on a parlé tout à l'heure des enfants plutôt en âge d'aller à l'école. Ensuite, on a des jeunes, des adultes jeunes aux alentours de 20 à 30 ans qui ont surtout ces problèmes de vue et qui nous arrivent pour une consultation. En général, c'est les gens qui travaillent beaucoup sur les écrans de visualisation, c'est-à-dire les ordinateurs ou bien les smartphones. Et puis, bon, il y a une autre catégorie, les personnes, les adultes également. Mais ceux qui arrivent en grand nombre, on a des jeunes en âge d'aller à l'école et surtout des jeunes, des adultes jeunes, que j'appelle adultes jeunes, entre 20, 25 ans, 30 ans, et qui travaillent beaucoup sur les écrans, les ordinateurs.
Une question qui est revenue régulièrement dans cette émission. En termes de correction optique, est-ce que vous avez le sentiment, professeur Gbé, que ces dispositifs médicaux, hein, ces lunettes, c'est quelque chose d'accessible aujourd'hui pour la population, ou c'est finalement encore un luxe dans un pays comme la Côte d'Ivoire?
Bon, en termes de correction, la prescription des lunettes, on le fait, mais c'est le gros problème qui se pose, c'est les moyens que la plupart, une grande partie de la population n'a pas pour l'achat de ces lunettes-là. Parce que, comme vous le savez, on n'a pas, tout le monde n'a pas d'assurance maladie, même si l'assurance maladie universelle qui vient d'être créée ne prend pas en compte encore la prescription des lunettes. Donc, ça pose un gros problème. Soit c'est les ONG qui viennent en charge. Nous-mêmes, on a eu à faire des dépistages dans les centres de santé, dans les écoles, surtout primaires. Mais après la prescription, heureusement, il y a eu des ONG qui nous ont aidés à prescrire, à acquérir les lunettes pour ces enfants. Et le résultat scolaire a impacté également sur le résultat scolaire. Parce qu'un enfant qui ne voit pas bien, le résultat n'est pas bon. Parce que si l'enfant dit qu'il ne voit pas bien, qu'on ne peut pas acheter ses lunettes, c'est difficile d'avoir un bon résultat scolaire.
Et c'est vraiment une excellente démonstration qu'investir dans la santé, c'est investir aussi dans l'avenir et l'économie globale du pays. Professeur Kassieu-Gbé, on parle donc des verres correcteurs. La chirurgie pour les yeux, ça existe en Côte d'Ivoire?
Bon, ça existait, mais celui qui pratique ne pratique plus. Donc, on ne peut pas dire que ça existe parce que, compte tenu de la disponibilité de l'appareillage au niveau de la Côte d'Ivoire, pour le moment, si on a affaire à certains qui veulent se faire opérer pour myopie et d'autres hypermétropies ou bien astigmatisme, on préfère les envoyer dans les pays qui ont ces genres d'appareils.
Qui ont le plateau technique et les spécialistes pour opérer. Un grand merci à vous, professeur Kassieu-Gbé, pour toutes ces explications, pour votre éclairage. On retrouve pour quelques minutes seulement le docteur Orso en studio. Tout à l'heure, j'ai entendu cette expression « verre freinant de myopie ». De quoi s'agit-il ?
C'est des verres qui ont une géométrie un peu spéciale, qui permettent chez l'enfant, c'est jusqu'à 15-17 ans, de réduire la vitesse de progression de la myopie. Je vous disais que la myopie va évoluer avec le temps chez l'enfant. Ces verres vont un petit peu ralentir cette progression. Donc les enfants seront moins myopes quand ils seront adultes. Généralement, on les met quand ils sont jeunes, ils sont à moins 2. Normalement, ils seraient arrivés à moins 7. Là, ils vont arriver à moins 4.
Donc c'est un bénéfice. Un dernier point, c'est vrai qu'on pourrait y consacrer une émission entière. Oui. La chirurgie quand on est myope, c'est aujourd'hui quelque chose qui est accessible dans un pays comme la France, effectivement, parce qu'il y a les spécialistes, les plateaux techniques et surtout l'assurance santé. C'est quelque chose qui est pratiqué fréquemment ?
C'est quelque chose, oui, qui se pratique de façon courante, qui permet de corriger la myopie. C'est une autre façon de corriger son trouble de réfraction. C'est pas la panacée, hein. Il faut bien discuter avec
son praticien. C'est pas parce qu'on est myope qu'on va être opéré. Hein,
non,
loin de là.
Non. Et j'ai des patients qui finalement l'ont regretté et j'en ai qui ont remis leurs lunettes parce que ça donnait un aspect plus sérieux.
Ah bon ?
Voilà, donc...
Pourquoi pas ?
Donc, c'est pas la panacée. On a aussi les lentilles de contact dont on n'a pas parlé. On a beaucoup de possibilités. Donc, il y a énormément de moyens de corriger ces troubles de la réfraction.
Un grand merci, docteur Christophe Orso. On va parler prévention encore dans quelques instants. Ce sera avec le docteur Jean-Marc Sen, prévention des infections dans le cadre de la pratique sportive, juste après Méchanceté avec Amanda dans Priorité Santé.
Hola, vives una vida loca. Your skin refreshing like soda. Gucci Fendi and Fashion Nova. Hola, mi making me hot bubble like coca. See you dancing like a cobra. Smarty and famous like Oprah. Menda. Everybody wanna see Amanda. Amanda. Everybody wanna see Amanda. Tout le monde veut voir Amanda. She knows she walking with the best too. Every now and then she want more. She know the grief for me to rest too. So I always do my best too. Make all of these ladies know they vex too. Cause I am the baddest, don't say you don't know. Girl, you make a man mad, make a man crazy. Guru my temper when I don't grace. We live in lush, no minimum wage. Baby, check your calendar, calling all day. Girl, she's in my body. She be feeling my soul in my mind. I'm not sorry, Amanda. Everybody wanna see Amanda. Amanda. Everybody wanna see Amanda. Tout le monde veut voir Amanda. I no go run away. Baby girl say you can vouch for me. And if I leave you girl, don't you come again. So me be tempted to touch it, yeah, yeah, yeah. The way you move it can I rock it. I say I'm tempted to touch it, yeah. Your body nice and I want it, yeah. If you that rubber dub style and that 6ix9ine style, yeah. The way I give you girl say no money can buy. Give me that ginger.
On parle sport et on parle activité physique maintenant dans Priorité Santé. C'est bien sûr avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, alors pratiquer une activité sportive régulière, c'est vrai que pour être en forme, c'est la bonne solution et de plus en plus de monde eh bien, fréquente les salles de sport. C'est un véritable essor hein, depuis quelques années sur la planète tout entière. Mais attention, eh bien, ces salles, ça peut être de véritables nids à bactéries, ce qui peut provoquer des infections cutanées, notamment l'infection à staphylocoque. On va commencer, comme d'habitude, par la base. Docteur Sen, c'est quoi une infection à staphylocoque?
Le staphylocoque aureus, ben c'est une bactérie. C'est une bactérie et dans la famille des staphylocoques, c'est probablement la bactérie la plus dangereuse. Alors c'est vrai qu'elle a pour fonction, ou en tout cas elle entraîne souvent des lésions, des infections cutanées. Il faut savoir que c'est une bactérie qui naturellement est présente au niveau de notre peau et donc quand il existe un déséquilibre justement de cette flore microbienne, eh bien, elle peut entraîner ces infections. Et là, on va voir des rougeurs, des cloques, des abcès, pourquoi pas un furoncle qui apparaît au niveau de la peau. C'est pas très joli, je vous l'accorde, mais c'est la réalité du staphylocoque aureus. Et puis, il faut savoir que cette infection peut se propager à travers la circulation sanguine et entraîner et toucher d'autres organes, comme le poumon, entraîner des pneumonies, des atteintes des valves cardiaques ou des infections osseuse. C'est pour ça qu'il est absolument important, un, de se laver régulièrement les mains parce que c'est comme ça qu'on peut le transmettre. Et puis deuxièmement, c'est que si on a une plaie ou une blessure, eh bien, on évite évidemment d'avoir des sports de contact ou d'aller à la piscine parce que c'est par cette plaie que l'infection peut évidemment arriver.
Alors, bien évidemment, on pense aux précautions à prendre pour diminuer ce risque d'infection cutanée. Qu'est-ce que l'on peut faire, docteur Sen ?
Bien, c'est vrai que les salles d'entraînement, de manière générale, sont un environnement propice aux infections parce que c'est une ambiance qui est chaude, c'est une ambiance qui est humide et évidemment, il y a des contacts et tout ça favorise le développement et la transmission de ces bactéries. Alors, la première chose, c'est que, premièrement, il ne faut pas marcher pieds nus, y compris dans les douches. On met des claquettes, on met des baskets, mais surtout, on ne laisse pas ses pieds au sol directement parce que c'est là que sont les bactéries. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter le plus possible l'exposition directe de la peau. Donc, dans certains sports de combat, comme le judo, par exemple, on a des kimonos, donc ça, c'est très bien. Mais il y a des sports de contact où on va être à manches courtes. Et donc, moi, je conseillerais d'utiliser à la fois ce qu'on appelle des t-shirts à manches longues. Le nouveau nom, c'est rash guard, mais c'est des t-shirts à manches longues.
Je savais même pas.
Voilà.
Alors là, je viens d'en apprendre une. Rash guard.
Rash guard. Ça fait mieux, mais enfin, c'est des t-shirts à manches longues. Et ou alors des leggings, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est des sortes de collants que l'on peut mettre. Et donc, ça permet d'éviter d'exposer directement la peau. Ça prévient, bien sûr, les infections. On désinfecte les surfaces vraiment régulièrement avant et après avoir pratiqué.
Excusez-moi, je vous interromps, mais désinfecter les surfaces, c'est quand même au personnel de la salle de sport de le faire ou c'est le sportif lui-même qui va prendre son petit vaporisateur et qui va nettoyer sa place?
Eh bien, les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, pour les sports de combat, quand il y a un tapis, il y a un grand tapis, eh bien, on désinfecte. Mais il faut savoir que ça fait partie de l'éducation, notamment des plus jeunes et également des pratiquants, de dire, eh bien, on nettoie. Il y a toujours quelqu'un qui vient et qui va nettoyer ce tapis à tour de rôle. Évidemment, il ne faut pas que ce soit toujours le même, mais enfin, qui nettoie ça. Et puis, quand on utilise un appareil, même chose, on utilise le vaporisateur juste après, et puis on désinfecte. C'est vraiment très simple et c'est vraiment une hygiène intéressante. Et puis, surtout, on prend sa douche le plus tôt possible. Hein. Certains pourraient être tentés de dire, bon, je vais prendre la douche à la maison. Bah, c'est une mauvaise idée parce que les bactéries adorent évidemment les vêtements, la sueur, et se va se développer dans les vêtements. Et donc, ce qui est vraiment le mieux, c'est de prendre tout de suite sa douche. On se lave le visage aussi. On prend des vêtements propres et secs. Et évidemment, on peut rentrer chez soi. Et puis, si jamais on sait qu'on est porteur de cette bactérie, ben, on évite d'aller dans les piscines parce que là, sinon, on transmet tout ça à ses petits camarades.
Alors, autre mesure, à part bien sûr éviter de retourner dans les salles de sport ou à la piscine quand on a contracté un staphylocoque doré, qu'est-ce qu'on fait quand on est porteur de cette maladie cutanée?
Eh bien, on essaye d'aller consulter au plus vite. On se soigne, on évite vraiment pour éviter de contaminer nos camarades. Alors, le traitement, c'est à partir d'antibiotiques et de soins locaux. Donc, le mieux, c'est d'abord d'arrêter l'entraînement avec contact ou d'aller à la piscine. Ensuite, on consulte rapidement. Hein, le médecin va donner des antibiotiques, va donner tout ce qu'il faut pour faire les soins locaux. Et il faut savoir que généralement, après 3 jours d'antibiotiques, on n'est plus contagieux. Donc vraiment, ce n'est pas terrible comme gêne vis-à-vis de l'activité sportive. Et puis, bien sûr, on se lave toujours les mains avant et après avoir touché la lésion cutanée qu'on désinfecte, ça c'est vraiment important, sinon on va transporter toutes ces microbes. Voilà, donc j'espère que ces conseils vont servir à nos auditrices et nos auditeurs et que la petite bête ne mangera pas la grosse.
Un bon conseil, docteur Jean-Marc Sen, et à très bientôt dans Priorité Santé. Et bien sûr, on remercie toute l'équipe qui chaque jour fabrique et prépare cette émission. Louise Calédec, Talimpo, Damien Roucou, Tom Malky, Didier Bleu, Didier Chérouse, les deux Didier aujourd'hui qui étaient à la réalisation. Demain, on va parler de l'objectif d'éradication du paludisme. Est-ce que c'est possible à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette infection parasitaire? On se donne rendez-vous bien sûr à 9h du temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.